pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
C'est quoi la lutte des classes ? C'est la constatation qu'il existe dans notre société des classes sociales dont les intérêts sont incompatibles, hein, les travailleurs, les salariés et la classe capitaliste. Si tu abandonnes ça, tu abandonnes ce qui structure l'action politique d'un parti communiste, d'un syndicat comme la CGT. Nous n'avons pas les mêmes intérêts que les gens qui prélèvent du bénéfice sur le travail des autres, la classe capitaliste, celle qui s'engraisse par l'exploitation des travailleurs. Quand tu abandonnes ça, oh là là, ça sent mauvais.
Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Première spéciale Monde Diplomatique de 2022, émission qui ne sera peut-être pas la plus enthousiasmante de l'année, puisqu'on va y traiter quelques articles d'un dossier de l'édition de janvier du Diplo intitulé « Pourquoi la gauche perd ?». Mais la réponse ne serait-elle pas incluse dans la question ? Même s'il faut s'interroger sur les raisons d'un échec, ne ferait-on pas mieux de nous demander comment la gauche pourrait gagner ? Alors pour être clair, hein, dans cette émission, la gauche c'est tout ce qu'il y a à gauche du Parti Socialiste, le PS hein, qui n'est pas un authentique parti de gauche, puisqu'il amenait des politiques très à droite quand il était au pouvoir. Pour nous, autour de ce micro, la gauche ne se résume pas à des concepts, la gauche, ce sont des réalisations concrètes. Retraite, sécurité sociale, services publics et notamment l'hôpital public. Retraite, sécu, services publics ont été des utopies transformées en réalité par les luttes populaires, essentiellement communistes. On en parle aujourd'hui avec les copains profs d'histoire géo, après nos vœux de saison. Bonne année Daniel.
Bonne année à tous. J'espère que l'année 2022 sera meilleure que 2021. Il n'y aura pas de mal, mais c'est pas sûr.
Avec nous autour de cette table, notre ami Philippe, notamment membre de l'Association des Amis du Monde Diplomatique. Bonne année mon copain.
Bonne année, bonne santé, et encore de l'amour, et toujours de l'amour.
Ça c'est un beau programme. Également autour de ce micro, notre ami André. Salut André.
Ah salut à tous. Bien sûr, je souhaite une excellente année 2022 à tous nos auditeurs. Hein. Je trouve que ce sont des gens très très bien puisqu'ils nous écoutent. Et je les aime évidemment parce qu'il faut que la vie des idées, ça soit une vie joyeuse aussi. Il ne faut pas non plus que ça soit une réunion d'anciens combattants ou de gens nostalgiques, etc. Il faut aussi diriger notre action vers l'espérance. Même si nous atteignons un âge déjà respectable, je pense qu'on travaille aussi pour la jeunesse. Il s'agit d'ouvrir des perspectives, des espérances. Nous sommes toujours de toute façon des gens assez optimistes dans notre genre.
Oh, qu'est-ce que ça fait du bien à entendre. Avant de nous demander pourquoi la gauche perd, encore quelques définitions sur la gauche et la droite par Didier Super.
À droite, on n'aime pas trop partager. On préfère assumer tout simplement qu'on est radin. À gauche, on est tellement gentil, on voudrait tout partager, mais surtout l'argent des riches. À droite, on pense que sur la planète, la vie n'est pas possible sans la bourse. À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a pas de meilleure idée. C'est peut-être pour ça qu'on en conclut que la planète est déjà foutue. À droite, on pense que si la planète craque, eh ben c'est de sa faute, elle avait qu'à être plus performante. À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a toujours pas d'idée. Qu'on nous donne le pouvoir et sûrement on en aura une. Ah non ! Ah ouais, ouais, d'accord, ouais. À droite, on s'en fout d'être malheureux. L'important, c'est d'être riche. À gauche, nous, on s'en fout du fric. L'important, c'est de rien foutre. À droite, on n'aime pas trop les Arabes et les Noirs. Tant mieux comme ça, à gauche, bah nous, on les récupère. À droite, c'est nous qu'on a toutes les plus belles gonzesses. À gauche, on apprend à apprécier la beauté intérieure. À droite, on a besoin d'un gros 4x4 pour circuler sur terrain plat que dans les centres-villes. Et tant mieux si ça pollue, ça fait gueuler les écolos. Parce que pour nous, l'écologie, en fait, c'est juste un parti de gauche. À gauche, on a des bagnoles tellement pourries qu'elles polluent plus que les 4x4. Par contre, on peut pas dire, nous, on soutient les écolos puisqu'on répare nos carrosseries avec leurs autocollants. Eh, vas-y, gros, fais chanter ta mère. À
à droite. On pense que les pédophiles, il faut leur couper les couilles à eux et à toute leur famille. À gauche, on prend la peine de se demander si dans certains cas, ils seraient pas juste amoureux. À gauche, on est content de donner des petites pièces à des clochards et comme ça, grâce à nous, ils meurent plus lentement. À droite, on aimerait tant que les clochards puissent être rentables, par exemple en vendant leurs cadavres aux usines de saucisses. À droite, on pense que les chômeurs... Non, c'est pas l'eau. À droite, on pense que les chômeurs, ils devraient pas fumer, ça donne le cancer. Et le cancer, il faut l'interdire à ceux qui peuvent pas se payer eux-mêmes leurs chimios et leurs perruques. À gauche, on pense que le cancer, ça doit être accessible à tous, sinon c'est contraire au principe de l'égalité, qui est à la base de nos valeurs républicaines.
À la une du Monde diplomatique de janvier 2022, dossier « Pourquoi la gauche perd ?» Voilà une question qu'elle est bonne. Petite introduction. L'échec ne concerne pas seulement la France. Et la victoire de la gauche au Chili ne suffit pas à annuler le problème. Ces 20 dernières années, le capitalisme a enchaîné les crises, des marées humaines ont réclamé que leurs dirigeants dégagent, sans que l'ordre néolibéral en place soit sérieusement ébranlé pour autant. Et c'est l'extrême droite qui progresse. Les erreurs et les reniements de la gauche au pouvoir, en particulier en Europe, expliquent qu'elle n'ait tiré aucun bénéfice du mécontentement général. Mais au-delà de son bilan de faillite, quelle chance sérieuse conserve-t-elle de transformer la société quand son divorce avec les classes populaires est presque partout consommé ? Daniel.
Alors, les auteurs de ce vaste article sont Benoît Bréville et Serge Halimi, directeur de publication, et son successeur probable va être Benoît Bréville. Voilà. Pourquoi la gauche perd ? Ça ne concerne pas la France spécialement, mais l'Europe, le monde occidental. Il y a le mot gauche. Eux, ils ne le définissent pas. Ils parlent du Parti socialiste, des démocrates états-uniens, des partis communistes européens et, en gros, des partis de la gauche post-communiste, type France Insoumise, Mélenchon. Et par contre, ils ne mettent pas dans le lot les écologistes. Mais ça va des démocrates américains à Die Linke en Allemagne. Cette gauche ainsi définie, partout en France, en Europe et aux États-Unis, est en difficulté, qui a une sorte d'épuisement historique de la social-démocratie à la fin du XXe siècle. D'autre part, une disparition ou une marginalisation des partis communistes, disparition du Parti communiste italien, marginalisation par exemple du Parti communiste en France. Mais qu'il y a une apparition de nouvelles formes critiques ou rénovatrice à gauche. Par exemple, Podemos en Espagne, Die Linke en Allemagne, la gauche en France, le parti de gauche, le front de gauche, la France insoumise d'aujourd'hui. Il constate aussi que ces nouvelles formes se sont fait le plus souvent récupérer, Podemos en Espagne, contenir, la France insoumise en France, marginaliser très fortement, Die Linke en Allemagne, Syriza en Grèce. Et ce constat, il le relie à une autre observation. La gauche, les gauches, ont abandonné les classes populaires. Il souligne que ces classes populaires sont elles-mêmes en mutation, en particulier avec le développement de la tertiarisation de l'économie, le déclin numérique relatif des ouvriers d'usine au profit d'autres salariés pauvres, pauvres ou modestes, plus isolés, moins conscient de l'exploitation de classe. Bon, l'archétype, c'est l'auto-entrepreneur ou le travailleur Uber, ubérisé, sont les figures manifestes de ce nouveau prolétariat, mais qui est très différent de l'ancien. Et que cela enlève des moyens d'action à la gauche aussi bien traditionnelle que renouvelée. Par exemple, la crise sanitaire permet d'inciter à développer le télétravail. Qu'est-ce qu'il y a de plus isolé qu'un télétravailleur? Alors, le sous-titre, c'est « On aimerait bien, mais on ne peut plus ». On suppose qu'ils font parler les dirigeants de la gauche définis comme ils l'ont défini. Autrement dit, des perspectives politiques électorales sans issue apparente. premières raisons sur lesquelles ils insistent pour dire qu'il n'y a pas d'issue apparente ou à court terme d'une victoire de ces gauches-là en France, en Europe ou même aux États-Unis. D'abord, ils soulignent qu'au sein de justement de ces gauches, il y a des désaccords structurels qui font qu'un accord de gouvernement, un programme négocié entre ces diverses fractions de la gauche, ce qu'on a appelé il y a un certain temps, bien longtemps, un programme commun, est quasiment impossible. Et il relève, par exemple, qu'en France, à moins de 3 mois de l'élection, il n'y a aucun accord entre les diverses tendances, fractions, partis, nuances de la gauche, qu'elles soient radicales ou gouvernementales. Il y a des points, la fiscalité, ils sont d'accord sur le régime de fiscalité, à peu près sur rien. Le régime de retraite, ils sont d'accord sur rien. L'Union européenne, entre ceux qui sont des élateurs de l'Union européenne, ceux qui veulent la réformer ou ceux qui veulent en sortir. La question nucléaire, entre ceux, par exemple la France insoumise qui est partenaire d'une sortie rapide du nucléaire, et par exemple le Parti communiste, plutôt partisan d'un retrait beaucoup plus... Et ça pose non seulement des questions politiques, mais des questions d'analyse, et disons, scientifique. Jancovici, par exemple, qui est un des très grands spécialistes, vient de publier un ouvrage qui s'appelle « Un monde sans fin », dans lequel il dit, et avec des arguments scientifiques extrêmement solides, qu'un retrait précipité du nucléaire ne réduit pas les risques, mais les augmente. Mais au sein de la gauche française, une déclaration comme ça, ça fait voler tout en éclats. Alors comment gouverner ensemble dans ces conditions? Mais il n'y a pas que ça. La politique de défense, accord sur rien. La géostratégie, le positionnement diplomatique et géostratégique de la France, les rapports avec Pékin, les rapports avec Washington, les rapports avec Moscou, tout le monde est d'accord sur rien. Quelle politique mener ensemble? Aucune politique extérieure, aucune politique de défense, aucune politique sociale, aucune politique fiscale et aucune politique environnementale. On est bien, qu'est-ce qu'on fait? Il souligne qu'au fond, le seul point commun entre toutes ces fractions de la gauche, c'est de dire que l'extrême droite est méchante. Ils sont tous d'accord, moi aussi d'ailleurs, je suis d'accord avec eux, mais ça ne fait pas un programme de gouvernement de dire que l'extrême droite est méchante. Et ces droites européennes et françaises en particulier, là ils sentent surtout la France, disent que depuis 40 ans, c'est le point commun des droites en France, et depuis 40 ans, l'extrême droite ne cesse de monter. L'extrême droite ne baisse pas parce qu'on va la désigner comme un démon, mais elle va baisser si on fait une politique qui lui coupe l'herbe sous le pied. De cette constatation des désaccords structurels des gauches en France, en Europe, il conclut au recul général des gauches en Europe. Par exemple, en 2002, au sein de l'Union européenne, 13 États étaient dirigés par des coalitions de gauche à direction social-démocrate. Aujourd'hui, c'est 7, moitié moins. Et il cite cette observation de Jean-Pierre Chevènement, qui est un homme de gauche, d'une gauche républicaine, traditionnelle, mais conséquente. Voilà ce que dit Chevènement. La mondialisation néolibérale, à travers la liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et des hommes, se trouve mise en cause non pas par la gauche, largement ralliée au social-libéralisme, mais par la droite dite populiste. C'est bien là qu'il y a quand même un énorme problème. Et il continue sur ce qu'on pourrait appeler les occasions ratées des gauches de gauche, de ceux qui ne veulent pas se rallier au socialisme libéral, à la social-démocratie, etc. D'abord, des abandons idéologiques. L'abandon des classes populaires, mais aussi l'abandon de la souveraineté populaire, de la souveraineté citoyenne. Si bien que, avec la droite classique, la plupart des gauches ont désigné le souverainisme comme étant quelque chose de méchant, quelque chose de droite, voire d'extrême droite, de populiste. Or, la notion même de souveraineté citoyenne et de souveraineté nationale, c'est la base même de l'origine des gauches en Europe et en France. Depuis 1789. Or, ils abandonnent ça à la droite, voire à l'extrême droite. Quand on abandonne ses propres valeurs, généralement, le sol finit par se dérober sous vos pieds. Deuxième exemple, la laïcité républicaine. assimilé à une sorte de pulsion islamo-gauchiste. Mais c'est pas du tout ça. Il dit, ah oui, mais le Rassemblement National parlerait de laïcité républicaine, donc nous, on ne peut pas en parler parce qu'on parlerait comme Marine Le Pen. C'est une ânerie de première grandeur. Là aussi, on abandonne nos propres armes à l'adversaire.
Moi, j'ai arrêté de dire bonjour aux gens parce que c'est le mot que Marine Le Pen a utilisé pour saluer ses militants. Donc le mot bonjour est devenu mal.
Voilà, comment on dépose les armes et on les met au service de ceux qu'on veut combattre. C'est quand même assez réussi comme stratégie. Et d'ailleurs, ces abandons idéologiques entraînent des abandons stratégiques. La conséquence, c'est l'éloignement de ces gauches-là des mouvements sociaux et des aspirations populaires, aussi bien d'ailleurs de la gauche politique que de la gauche syndicale. Et dans l'article, alors là, il centre sur la France comment depuis une trentaine d'années, presque tous les combats de lutte sociale et de lutte syndicale ont été perdus. Presque tous, pas tous, hein. Et ils disent comme ça. L'échec de la plupart des grandes mobilisations sociales depuis 20 ans, en partie imputable à des stratégies syndicales inefficaces, mouvement de saute-mouton à la CNCF, à la RATP, doit aussi beaucoup à des politiques gouvernementales qui ont empêché l'organisation de grèves paralysantes en imposant, par exemple, un service minimum dans les transports. Car la bourgeoisie c'est apprendre de ses défaites et détruire les outils qui les ont provoqués. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce qu'on vient de décrire pour la gauche. Elle n'apprend pas de ses défaites et elle met ses outils, ses armes au service de l'adversaire. Chaque fois qu'elle le peut, elle doit enlever les armes de l'adversaire. Donc voilà, voilà leur point de vue. Alors c'est vrai que la critique, elle est sévère. Alors, il cite un petit peu plus loin, le capitalisme ne va pas s'effondrer de lui-même. Il a encore la force de nous conduire tous à la mort, comme ces pilotes d'avion qui se suicident avec leurs passagers. Il est urgent d'entrer dans le cockpit pour nous emparer ensemble des commandes, c'est-à-dire d'une politique de rupture, pour changer de cap. Encore faut-il que les commandes répondent. La suite, c'est l'observation d'une question fondamentale, c'est le verrou de l'Union européenne. Qui verrouillent complètement la situation et ils prennent l'exemple grec de Syriza 2015. Comment l'Union européenne a brisé une tentative de gauche radicale et l'a littéralement éliminée. Et à cette occasion, c'est le président de la Commission européenne de l'époque qui dit qu'aucune élection dans les États européens ne peut entrer en conflit avec les traités. Les traités sont supérieurs. Donc, en un mot, votez comme vous voulez, ça vous amuse, ça vous fait passer le temps, c'est nous qui commandons et c'est nous qui décidons. La tragique histoire grecque, 2015, en est une illustration effroyable. 2015, la Grèce, mais 10 ans avant, 2005, le traité constitutionnel où 4 pays européens ont voté non, dont la France, et quand c'est non, c'est oui quand même.
Puisque 2 ans plus tard, il y aura le traité de Lisbonne, où cette fois-ci, on ne consultera pas le peuple. Europe-là, vous en voulez non, a dit le peuple en 2005, et finalement, nous brillants politiciens, on dit bah, ce sera quand même oui, et on ne vous consulte pas cette fois-ci.
Comme ça, c'est plus sûr. Hein. Donc, il y a eu une sorte de discrédit du monde politique, d'invocation de l'impuissance politique, des partis traditionnels de gauche comme de droite, d'ailleurs, qui perdent leurs adhérents, la montée de l'abstentionnisme, effectivement, et le développement de mouvements alternatifs qui refusent tout leader. Mais 2011, Occupy Wall Street. 2016, Nuit Debout. 2018, les Gilets jaunes. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces mouvements ? C'est de faire une contestation politique, économique et sociale en dehors de toute organisation de partis, de syndicats, etc., de se défier de toutes ces organisations traditionnelles et de refuser toute structuration et tout mouvement et toute émergence de leaders. Mais évidemment, ils sombrent dans l'impuissance. Le bilan, il est quand même sombre et quasiment désespérant. La dernière partie de l'article, lutte contre la résignation à la recherche de nouvelles formes ou de nouveaux terrains de lutte. Alors, il passe en revue diverses hypothèses. Premier exemple, qu'ils prennent les ZAD, les zones à défendre. Ainsi, disent-ils, voit-on fleurir les ZAD en France ou ailleurs, ces communautés autogérées, les circuits courts. Vivre à l'écart du système revient cependant à accepter de cantonner son action aux marges, faute de pouvoir changer l'essentiel. Bon, ils pensent que c'est des luttes, en gros, je dirais, sympathiques, mais qui ne changent pas grand-chose à l'équilibre général du monde. Certes, la pratique de ces mouvements type ZAD sont souvent animés par des jeunes issus de classes moyennes diplômées et concernent assez peu les milieux populaires. Ça, je ne sais pas si c'est vraiment le cas.
J'allais railler, Daniel, mais bon, en fait, la révolution, c'est un truc de bourgeois, hein, globalement, parce que les pauvres, eux, ils sont occupés par leur survie. Ils ont autre chose à penser que changer la société. Non, mais c'est un peu lapidaire, ce que je dis.
Oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on... Et alors, ils en reviennent sur une réflexion plus approfondie sur l'alliance des classes qui crée un rapport de force favorable à la transformation de la société. Et là, c'est l'exemple principalement du XXe siècle. Hein. C'est l'exemple de 1936, c'est l'exemple de 1945 du CNR, du Conseil national de la Résistance. C'est l'exemple aussi du programme commun de la gauche des années 70 qui aboutit à l'élection de 81. Alors les suites sont pas... Hein, mais c'est la stratégie d'alliance de classe. Alliance entre quelles classes ? Hein, les classes populaires, un prolétariat de salariés et de salariés principalement ouvriers dans les usines et ce qu'ils appellent des classes moyennes progressistes. C'est cette alliance entre ces classes populaires ouvrières, ce prolétariat et ces classes moyennes progressistes, cette alliance, cette union contre l'oligarchie qui a permis ces victoires populaires. Alors on peut dire qu'elles ont été de courte durée. Hein, 36 ça dure un an, 80 ça se termine en 82-83. L'œuvre du Conseil national de la Résistance est faite en très peu de temps.
Œuvre du CNR qu'on doit aux uniques communistes, seuls contre tous, il faut quand même le préciser.
Alors, est-ce qu'il est possible de reconstituer cette alliance de classe ? Ou doit-on lui substituer autre chose ? Parce qu'en fait, ce système d'alliance de classe est désagrégé par les ségrégations spatiales, les quartiers, les ségrégations scolaires, les ségrégations culturelles, les communautarismes. Et comment ces classes populaires qui ne ressemblent plus du tout à celles du XXe siècle, comment reconstituer au fond ce front de classe ? En particulier lorsque une bonne partie des classes populaires sont dans les quartiers difficiles, sans perspective d'avenir, contraintes à la débrouille dans l'immédiat, à la solidarité de proximité ou de voisinage et au repli identitaire. Et que les classes moyennes progressistes sont composées de bourgeois diplômés et de retraités, un peu de bobos, qui certes ont une bonne volonté considérable pour prendre en cause les classes populaires, mais au fond sont à des années-lumière de tout ça. Il faut remarquer que cela est compliqué par la disparition du contre-modèle soviétique et de sa prétendue menace sur le capitalisme, qui cantonnait les classes dirigeantes à une prudence sociale considérable. Et citation de Thomas Piketty, qui est, disons, un keynésien social-démocrate. Voilà ce qu'il dit. « La réduction des inégalités au XXe siècle est très liée à l'existence d'un contre-modèle communiste. Par la force de pression et la menace qu'il a représentée pour les élites propriétaires des pays capitalistes, il a très fortement contribué à transformer les rapports de force et à permettre dans les pays capitalistes l'émergence d'un régime fiscal, d'un régime social, d'un régime de sécurité sociale qui aurait été très difficile à imposer sans ce contre-modèle. »
La révolution soviétique et l'URSS, c'est pas tant les soviétiques qui en ont profité, c'est nous les occidentaux, parce que jusqu'en 1991, faut remarquer juste pour la France que les patrons français étaient beaucoup moins insolents tant qu'ils avaient la trouille des chars de l'armée rouge. À partir de 91, évidemment, ça a été, comme on dit trivialement, la fête du slip pour le patronat, vu qu'ils avaient plus peur de l'URSS qui n'existait plus.
Oui, mais cette crainte des classes dirigeantes à l'égard du modèle social soviétique était relayé par la présence de partis communistes forts en Italie, en France et ailleurs qui représentaient ce contre-modèle et qui structuraient les luttes des ouvriers. N'empêche que force est de constater historiquement que toute la situation que vient de décrire Daniel est dominée par la disparition ou la quasi-disparition de la lutte communiste des organisations communistes et de la présence, par exemple, d'une CGT extrêmement forte en France. C'est-à-dire que les classes populaires, certes, elles se sont transformées, elles se sont dispersées, elles ont été, par l'action du patronat et de la bourgeoisie, dispersées. Il y a eu l'appel aux sous-traitances, à la précarisation du travail, à l'ubérisation, etc. Tout ça, des transformations. Mais les ouvriers, ils existent encore. Les salariés, ils existent encore. Il y a encore un très large prolétariat. Il est même encore plus majoritaire qu'il n'a jamais été. Mais il n'est plus organisé et surtout, il n'est plus représenté. Il n'est plus représenté par l'affaiblissement et la quasi-disparition du Parti communiste, mais aussi par le rejet dont il a été victime de la part de la social-démocratie. Il y a des citations quand même là-dedans de Strauss-Kahn, de « Le Parti socialiste délibérément a dit « c'est plus la peine de s'appuyer sur ces classes populaires pour arriver au pouvoir, il suffit de s'adresser à ces classes moyennes », entre guillemets, de gens diplômés, de travailleurs qualifiés ou de fonctionnaires ou de petites bourgeoisies éclairées. Ça explique le déplacement des thèmes de campagne, du domaine social et fiscal, du domaine de la justice sociale en quelque sorte, des répartitions des richesses, vers le sociétal. Ça a été délibéré, on a dit bon, on ne va pas s'adresser aux gens qui gagnent 3 ou 4 000 euros par mois, on ne va pas s'adresser à ces gens-là de la même façon qu'on s'adresse à des gens qui sont des prolétaires, précaires, mal logés, etc., et qui payent les impôts, qui sont victimes de l'injustice sociale. On va s'adresser à ces gens-là et on va avoir une majorité. L'écologie, c'est très typique de ce truc-là. Bon, l'écologie intéresse ces classes moyennes, alors que la situation des plus pauvres les intéresse extrêmement modérément. Ça a été déterminant dans la catastrophe. D'ailleurs, l'article, en tout cas du Monde diplomatique, incline à se retourner à nouveau vers ces classes-là et à refaire un programme.
Sans parler de ce phénomène qu'on a souvent évoqué, c'est qu'on a fait disparaître le mot ouvrier du langage. Voilà, il n'y a plus d'ouvriers, donc en fait, il n'y a plus de lutte des classes, machin. Maintenant, il n'y a plus d'ouvriers, il y a des collaborateurs dans le secteur tertiaire. Donc, par exemple, un jeune homme qui pédale sur un vélo Uber pour aller livrer des pizzas, c'est pas un esclave, c'est un gars qui est dans le tertiaire.
Et on pourrait se dire, tout est perdu.
Oui, ça m'arrive par moments de me lever le matin en me disant ça.
Alors, la conclusion de l'article n'est pas aussi pessimiste que ça. On peut l'interpréter d'une autre formule, tout est possible ou tout est encore possible. Mais attention, les auteurs suggèrent de reprendre l'idée des fondateurs architectes du libéralisme d'aujourd'hui. Et en particulier de Hayek, qui est contemporain, mais qui avait vécu beaucoup plus longtemps que Keynes. Et qui ont été poussés dans leur retranchement pendant 40 à 50 ans par les conséquences de la Première Guerre mondiale, la crise économique, la montée des fascismes, etc. Et ils avaient en face d'eux la montée du soviétisme, du communisme, et la critique interne du libéralisme dans les pays capitalistes, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la pensée de Keynes. Et les mesures en France, les mesures du Front populaire, les mesures du Conseil national de la résistance ou les réformes prises au début du mandat de Mitterrand en 80 sont bien plus des réformes keynésiennes que des réformes marxistes. Et Keynes triomphe en quelque sorte quasiment post-mortem. Et Hayek et les libéraux sont poussés dans les cordes. Et Hayek dit, eh bien, face à ça, il faut reprendre, je vais citer, il faut faire un acte de courage, se forcer à un véritable radicalisme et faire une contre-offensive idéologique, former des spécialistes, des économistes, des hommes politiques, et relancer une grande contre-offensive libérale. Contre, alors plus que le communisme soviétique, il pense au triomphe des théories de Keynes dans le monde occidental, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, les États-Unis, etc. Et ça a donné l'école des Chicago Boys, Friedman et compagnie, et la grande offensive, effectivement, qui a balayé le monde occidental de la fin des années 70 à aujourd'hui. En quelque sorte, les auteurs appellent à une sorte de radicalité inversée par rapport à ce gigantesque combat mené dans la seconde moitié du XXe siècle. Autrement dit, à une audacieuse refondation intellectuelle idéologique qui s'émancipe de la domination théorique de l'adversaire. déposer les armes, comme on le disait tout à l'heure, trouver que finalement le marché c'est mieux que l'économie administrée, trouver que les communautarismes c'est quand même plus gentil et plus libéral que la laïcité, etc. C'est-à-dire abandonner le combat sur le plan des idées, c'est tout perdre. Eh bien, ils invitent à faire exactement l'effort, une sorte d'effort inverse, de reconstruction d'une autonomie idéologique et intellectuelle par rapport à la domination des théories libérales. Ceci préluderait à un combat politique, économique, social et environnemental. Car, évidemment, le pire ennemi de l'environnement, c'est bien le libéralisme libre-échangiste, qui donnerait des chances de retrouver, pour les sociétés occidentales et les autres, un véritable avenir. Donc, il termine par une sorte d'appel à un effort de refondation, de reconstruction, à un effort intellectuel, mais qui prélude à un gigantesque combat. Mais ça, c'est une affaire de décennies et de décennies. Ça ne se règle pas dans un quinquennat, hein, ça.
Après, Daniel, il y a un problème, c'est que le poison idéologique bourgeois fait croire à tout un tas de prolétaires en fait, qu'ils peuvent devenir des bourgeois. Ça, c'est très compliqué. Hein. J'en connais des schizophrènes de classe hein, qui gagnent à peine le SMIC en CDD, mais qui se donnent des airs de « si j'étais un bourge ». Et ça, c'est un poison absolument redoutable.
S'émanciper de la domination théorique de l'adversaire. Un sacré boulot, hein, dans tous les aspects. Hein.
Reconquérir nos imaginaires. La suite de cette spéciale Diplo, pourquoi la gauche perd, ce sera avec Philippe à propos de la disparition du Parti communiste italien, juste après Didier Wampas, qui parfois se prend de nostalgie pour Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français de 1972 à 1994, en une époque où le patronat français était moins violent et moins insolent qu'aujourd'hui, enfin du moins jusqu'à l'écroulement de l'URSS en 1991.
Quand je vois la France, ça me dit qu'il faudrait qu'il revienne. Quand je vois le PCF, ça me dit qu'il faudrait qu'il revienne. Quand je vois ma maman, ça me dit qu'il faudrait qu'il revienne. Quand je vois Cliff le chien, ça me dit qu'il faudrait qu'il revienne.
La politique d'union de la gauche reste, selon moi, la seule issue.
Autour du programme commun.
Attendez, écoutez. Deux choses l'une. Vous avez déjà reçu un avertissement
de
tous les syndicats de journalistes contre le fait qu'on ne peut pas s'exprimer à Antenne 2, d'après le communiqué que j'ai vu. Bon, il y a un communiqué des syndicats, de l'intersyndicale.
Pas se mêler de problèmes de journalistes, on y répondra quand il le faudra, M. Marchais.
Écoutez, Kabbach. C'est, je crois, une soirée suffisamment sérieuse. Si vous pensez que ma place n'est pas souhaitable puisque la droite, elle a gagné, moi je laisse la place à la droite et je vais ailleurs. On me demande ailleurs, je peux y aller. Parce que c'est extrêmement désagréable de discuter avec vous. Je crois que les syndicats ont raison de protester contre le fait que l'information avec vous sur Antenne 2 a du mal à s'exprimer.
Suite de notre survol de ce dossier « Pourquoi la gauche perd » dans l'édition de janvier 2022 du Monde Diplomatique, avec cet article que tu as choisi, Philippe, « L'étrange disparition du Parti communiste italien », un article du politiste Antoine Schwartz. Revendiquant jusqu'à 3 millions d'adhérents,
Le Parti communiste italien fut longtemps la plus puissante formation communiste d'Europe occidentale, celle qui faisait frémir les États-Unis. Il a cessé d'exister en avril 1991, emportant avec lui toute une identité politique.
Ce que je vais dire concerne l'Italie, une histoire différente de la France, une constitution différente de la France et des partis politiques différents de la France. Néanmoins, les leçons que l'on peut tirer de la disparition du PCI, Parti communiste italien, peuvent également être fécondes pour nous, Français. Alors, que dit l'auteur au début ? Si le gauchisme est la maladie infantile du communisme, le conformisme est la maladie de sa maturité. Mais comment expliquer autrement l'étrange disparition du plus puissant PC d'Occident en février 1991 ? Lors d'un ultime congrès, après 70 ans d'existence, le PCI d'Antonio Gramsci et des glorieux partisans, les partisans, ceux qui ont lutté contre Mussolini, abandonnaient son nom et son histoire pour s'auto-dissoudre. En 1945, la gauche italienne constitue le mouvement populaire en faveur du changement social le plus important et le plus impressionnant de l'Europe de l'Ouest. Palmiro Togliatti a abandonné toute velléité révolutionnaire pour l'unité nationale et la réalisation d'une démocratie qui permettrait à la classe ouvrière de jouer un rôle politique et d'obtenir des avancées économiques et sociales. Le PCI est le modèle d'un parti de masse exceptionnellement raciné. Il disait « il faut qu'il y ait une cellule ». Partout où il y a un clocher, et il y a un film qui est typique de ça, c'est toute la série des Don Camillo, où on voit un curé et un secrétaire du Parti communiste qui s'opposent dans un village. Et bénéficiant d'un fabuleux rayonnement intellectuel et culturel. Les intellectuels, ils étaient communistes dans les années 40-50, en Italie, en France aussi d'ailleurs. Sa puissance est redoutée par les tenants de l'ordre en Italie, le patronat, la droite, le Vatican, mais les tenants de l'ordre à l'étranger, notamment aux États-Unis. Depuis le début de la guerre froide en 1945, il était clair que les États-Unis ne permettraient pas que les communistes parviennent au pouvoir en Italie. Et le Parti communiste a beau être la deuxième force électorale, il reste maintenu aux portes de gouvernement dominées par la démocratie chrétienne qui contrôle tout l'État par des logiques clientélistes, voire mafieuses. On disait même que le président du Conseil, Giulio Andreotti, qui a été ministre, président du Conseil un nombre d'années impressionnant, était en fait le chef occulte de la mafia. À la fin des années 1960, il y a eu une contestation en Italie dans l'ensemble des secteurs de la société. Sa particularité a été son intensité et sa durée. Il y a eu des grèves, des occupations, des affrontements avec la police et le pays a paru s'embraser. Les mouvements ont échappé aux syndicats et aux partis. Des organisations comme Lotta Continua ou Potere Operaio, lutte continuelle et pouvoir ouvrier, mènent une subversion aux couleurs du drapeau rouge. Et une frange de la gauche radicale a rejoint la lutte armée et la violence répressive hors normes de l'État pour endiguer la subversion. Les menées terroristes de groupuscules comme les Brigades Rouges, on se souvient en particulier de l'assassinat d'Aldo Moro, frappent les esprits, mais les actes de violence sont surtout le fait de groupes d'extrême droite liés à des officines troubles. Les groupes d'extrême gauche, comme les Brigades Rouges, ont tué individuellement. Ils ont tué des personnes. L'extrême droite, elle a fait des attentats de masse. Elle a tué beaucoup de gens par des bombes. En 1981 encore, un attentat à la bombe est commis à la gare de Bologne, 11 ans après celui de la place Fontana à Milan. Et puis, début des années 70. Après le coup d'État au Chili en 1973, le secrétaire général du PCI, Enrico Berlinguer, propose une nouvelle ligne, le compromis historique avec la démocratie chrétienne, afin de préserver les institutions démocratiques et obtenir les réformes sociales. L'anticommuniste imprègne toute la vie politique et le PCI ne bénéficie qu'en partie du climat de révolte qui se déroulait en dehors de lui. Et en 1976, il obtint 12 600 000 voix, soit 34-37% de son record. Il compte alors environ 1 850 000 adhérents. Mais son hégémonie sur la gauche italienne s'avère fragile et contestée. On lui reproche d'être une organisation bureaucratique qui freine plutôt qu'elle n'encourage la contestation. Et en même temps que la crise économique, il y a un tournant conservateur en Italie et ailleurs, au début des années 70. Donc il y a eu le coup d'État au Chili en 73, l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher en 79, l'arrivée au pouvoir de Ronald Reagan en 80. À l'automne 80, la grève de 35 jours de Fiat échoue. Et avec la mise en place du système monétaire européen, de la nouvelle orthodoxie économique, les dirigeants du mouvement ouvrier sont embarqués dans la bataille contre l'inflation qui exige une modération des revendications salariales dans un contexte de chômage croissant. 1984, Bettino Craxi, qui est le président du Conseil et qui est socialiste, met fin au mécanisme de l'indexation des salaires sur l'inflation. Le PCI perd le référendum qu'il avait réclamé à ce sujet. Cette année est aussi point de bascule et sommet de l'influence du PCI. Ici, donc, un sous-titre, l'entrée en crise du système soviétique va précipiter l'action des réformateurs. Le parti évolue à bas bruit. Il y a un renouvellement des cadres. Il n'y a plus de génération des partisans. Plus de mémoire des ouvriers. Les nouveaux dirigeants sont éloignés du monde du travail car issus des municipalités. Ils ont une culture gestionnaire et professionnelle de la politique. C'est un parti qui devient un parti attrape-tout, susceptible de s'adresser à toutes les classes. La présence ouvrière se marginalise à cause des transformations de l'industrie qui diminue en Italie comme en France et son influence est entamée. L'effort est aussi celle des médias de masse qui laminent les rapports à la politique et à la culture que le parti avait consciencieusement défendu. Et vers 1989, les permanents ont le sentiment de vivre un déclin que la fin du bloc communiste va renforcer. Il y a un recul qui est enregistré en 1987 malgré les 26,5%. Recul qu'on peut estimé être de même nature que celui du PC français qui avait fait 15% en 81, alors qu'avec Jacques Duclos, en 69, il avait dû faire 21%, il talonnait Alain Poher de très près. Mais même si 15% aujourd'hui, le PC oserait à peine en rêver, 15% à l'époque, on n'a pas vu le chiffre, on a vu le mouvement. Mais l'opinion retient effectivement la tendance à la baisse et surtout la progression du PSI, du Parti Socialiste Italien. La nécessité d'un renouveau s'impose. Un homme va en être l'incarnation, M. Achille Occhetto, nouveau secrétaire en 88. Homme d'appareil et maître d'œuvre d'une stratégie de transformation conduite par des réformateurs soucieux d'apparaître moderne. Et ce M. Occhetto, qui se réfère donc à la Révolution française, il se voit comme un fils de la belle Révolution de 89 plutôt que de la vilaine Révolution de 1793. Au lieu de la conflictualité sociale, il privilégie une rhétorique guimauve qui exalte le progrès démocratique, celui qui se réalise à petits pas et ne trouble pas les milieux du pouvoir. Il jette par-dessus bord le marxisme désuet et adhère au réformisme politique et à l'international socialiste de Jacques Delors. Être moderne suppose aussi de repenser le rôle de l'État. Le pays a besoin d'un État qui gère moins. Pour les réformateurs, le tournant envisagé doit permettre d'enrayer le déclin du parti de l'aider à séduire un électorat plus large, rassembler des forces extérieures, bénéficier d'une crédibilité censée ouvrir les portes du gouvernement. Mais la référence communiste fait mauvais genre. Et l'entrée en crise du système soviétique va précipiter l'action des réformateurs et les engager dans la formation sur un chemin sans retour, celui de la dissolution. À l'automne 89, sans débat interne, Oketo annonce la nécessité de changer de nom. Il y a une tempête dans le parti, mais la direction maintient le cap. Une discussion intense. Le mot communisme est-il un poids mort à laisser ou un héritage à assumer avec fierté? Changer de nom ne revient-il pas à abandonner son identité et son histoire? Pour les militants, c'est douloureux, car cet engagement, c'est toute leur vie. Le mot communisme, c'est leur identité. En mars 1990, au congrès de Bologne, la direction emporte la majorité des délégués pour la construction d'une nouvelle formation. Il y a un poids décisif du légitimisme qui nourrit le fonctionnement ordinaire de l'organisation. Il faut que les structures durent. Une tendance à maintenir l'unité en refusant les divisions, une confiance accordée au groupe dirigeant. D'où une désertion silencieuse de milliers de militants rentrant chez eux sans combattre. En 91, le PDS est créé, PDS, successeur du Parti communiste, avec un nouveau symbole, le chêne. Une minorité décide une scission pour créer une formation, le Parti de la Révolution communiste, PRC, mais ses effectifs demeurent faibles comparés au PDS. Dans ce bain de jouvence, les classes populaires boivent la tasse. Le PDS parvient enfin à exercer le pouvoir. Enfin, lors de coalitions de centre-gauche avec Romano Prodi ou Massimo D'Alema, au prix d'un renoncement qui fondait son existence. Avec la fin du PCI, les capacités de résistance de la gauche italienne s'effondrent. Elle est désormais désarmée face à l'émergence de Forza Italia, la nouvelle droite offensive fondée par Berlusconi en 1994. Si de vastes secteurs de classe laborieuse ont adhéré à l'idéologie conservatrice, c'est parce que les dirigeants sociaux-démocrates ont démobilisé politiquement tant par leurs paroles que par leurs actes. En effet, au-delà d'un parti ou d'un symbole, ce renoncement fragilisait toute une mouvance politique, syndical, intellectuel, tout un écosystème militant, autrefois capable d'élaborer ses propres conceptions du monde, de diffuser dans la société son goût de la culture, de défendre corps et âme son aspiration à un monde meilleur.
C'est la lutte finale, groupe en nous et demain la terre.
André, quelques réflexions suite aux exposés de Daniel et Philippe ?
Oui, d'abord revenons sur la disparition, quasi-disparition des partis communistes en Italie et en France. Il y a certains pays qui ont gardé, enfin en tout cas le Portugal a gardé un parti communiste à peu près digne de ce nom et qui a une représentativité importante au Parlement et dans la vie politique du pays, qui est resté sur des positions correctes, quoi, qui n'a pas choisi, comme le Parti communiste italien, la fuite en avant vers la social-démocratie, les classes moyennes, etc., etc., mais qui garde pour objectif la défense des classes exploitées, de la classe ouvrière, quoi. Bon, en France, l'évolution a été presque identique à l'Italie. Enfin, moi, j'ai assisté à cette évolution-là. Et confronté au même problème, dans un premier temps, le Parti communiste français fait la même chose. Enfin, il faut voir un petit peu les abandons. À l'époque de Robert Rue, par exemple, ça a été quasiment l'abandon. Ils se sont même demandé à un moment donné s'ils n'allaient pas abandonner le terme communiste. Le concept de lutte des classes également a été abandonné. Or, si la lutte des classes, ce n'est pas un drapeau. C'est une notion théorique, philosophique, sans laquelle le Parti communiste a peu de raisons d'exister. S'il abandonne la lutte des classes, autant être un parti social-démocrate comme un autre. Parce que c'est quoi la lutte des classes ? C'est la constatation qu'il existe dans notre société des classes sociales antagoniques, c'est-à-dire dont les intérêts sont incompatibles, hein, les travailleurs, les salariés, et la classe capitaliste. Qu'on le veuille ou non, que ça l'affiche mal ou que ça l'affiche pas mal, c'est exact. Si tu abandonnes ça, tu abandonnes ce qui structure l'action politique d'un parti communiste ou même d'un syndicat comme la CGT. Nous n'avons pas les mêmes intérêts que les gens qui prélèvent la plus-value, qui prélèvent du bénéfice sur le travail des autres, hein, la classe capitaliste, hein, celle qui s'engraisse par l'exploitation des travailleurs. Bon, quand tu abandonnes ça, oh là là, ça sent mauvais. C'est ce qui s'est passé en France, donc dans les années 80, la proximité toxique du Parti Socialiste y a été pour beaucoup. Le fait aussi que le Parti Socialiste, dès avant 81, pour certains de ses dirigeants, avaient déjà adhéré au libéralisme. Ils n'ont fait leur coming out que sous Hollande. Je constatais qu'en 81, la gauche était au pouvoir, mais le Parti Socialiste, qui était le parti majoritaire de la gauche, avait déjà baissé pavillon et accepté le fait que nous étions dans un pays capitaliste, dominé par des monopoles, des grands intérêts, etc., et qu'il faut faire avec, quoi, en quelque sorte, hein, gérer au mieux une société qui reste fondamentalement capitaliste, sans mettre en cause l'essentiel. Alors le Parti communiste en était affecté, évidemment. Alors que faire ? Se replier sur une position théorique, politique, communiste ? Or, le Parti communiste avait déjà perdu, commençait à perdre déjà des voix. Il commençait déjà à être érodé au profit de la social-démocratie. Alors, il a choisi d'abandonner en partie le terrain, en quelque sorte. Et là, on a vu que c'était ensuite après, c'est la catastrophe. Il faut voir entre 1980 et aujourd'hui, la déperdition d'adhérents, de militants, invraisemblable, quoi. Ça aurait été invraisemblable. C'était déjà perceptible à la fin des années 70, on voyait bien. Et en plus, le parti était partagé entre ces deux tendances. Hein. Tendance de repli, de maintien sur une position ferme et une position de défense des intérêts des travailleurs. C'est Georges Marchais, en gros, hein, pour simplifier. Et au contraire, on va essayer de conquérir des classes moyennes, on va faire un peu aussi du féminisme, de l'inclusivisme, enfin de tout ce qu'on veut, etc. On va essayer de séduire ces classes moyennes, etc., qui semblent abandonner le terrain de la lutte sociale et de la lutte économique, parce que, bon, bah, elles s'en sortent à peu près, etc. C'était difficile comme choix. Mais en fait, le choix a été quand même assez tragique. On voit que, bon, bah, ça n'a pas empêché une dégradation catastrophique des forces du Parti communiste, au détriment évidemment des classes sociales qu'il représentait. Daniel nous a dit tout à l'heure les raisons sociologiques aussi de cette dégradation, et puis bien sûr l'effondrement de l'URSS, et puis l'abandon par les intellectuels. Les intellectuels français ont massivement abandonné la solidarité avec les communistes ou avec les ouvriers, etc. Ils sont passés à droite. Puisque à gauche, c'était le totalitarisme.
Parce que la gauche, c'est le goulag.
Ça aussi, ça a vachement compté. Cette lutte idéologique, là, nos adversaires, ont bien joué. Et puis avec une force tellement énorme que, bon, bah, quel intellectuel pouvait continuer à soutenir la lutte des communistes pour une autre société ? C'était impensable. Alors ils sont passés soit à droite, soit dans une position de repli opportuniste, etc. Et puis bon, sans force intellectuelle, hein, l'article du Monde diplomatique inclinait à faire une révolution culturelle, une révolution dans les esprits. Mais sans intellectuel, c'est difficile. Il est sûr qu'il faudra en même temps reconquérir les classes populaires, hein, et leur présenter un véritable programme de transformation sociale, crédible, etc., et qui soit un véritable contre-programme en face du suicide libéral, du suicide de l'humanité par le libéralisme. Mais en même temps, il faudra bien avoir des intellectuels, avoir des penseurs, avoir des gens qui sont quand même des dirigeants de la pensée, de la réflexion. Malheureusement, on se pose la question, pourquoi les gens s'abstiennent-ils ? Pourquoi le peuple, les gens pauvres, les gens exploités, les gens qui sont dans la merde socialement, ils abandonnent totalement le combat politique. Ils se mettent tout à fait en marge de la politique, ils ne votent plus, etc. Parce qu'ils n'ont plus confiance dans les élites, toutes les élites, y compris les élites intellectuelles. Ça va être un sacré problème de rendre encore crédible, parce que tous ceux qu'on voit à la télé qui s'autoproclament les maîtres à penser en France sur tous les sujets, etc., on voit que ce ne sont pas la plupart du temps des gens qui pensent une transformation sociale, une autre société. ils disent voilà, ça va pas, ça c'est mal, etc. Mais dans l'ensemble, quels sont les gens qui sont à gauche là-dedans? Vraiment à gauche pour une transformation sociale? Il n'y en a pas. La plupart de ces gens-là pensent que tout système de contestation radicale et de révolution, c'est un truc qui, oh là, ça va faire des morts, ça va faire de la violence, pourquoi tant de violence, etc. Parce qu'eux ne subissent pas la violence sociale, alors donc ils sont absolument hostiles à tout mouvement de véritable révolution. À quoi bon ? C'est le sens de l'article aussi qui dit on ne peut plus, c'est plus possible maintenant, il y a la mondialisation, la domination complète du capital, les structures européennes, etc. On ne peut plus remuer ça. Il y a quand même dans la population un découragement, une résignation. Hein. Alors je pense qu'il faut dire aux gens, ne vous résignez pas, parce qu'à la veille de la Révolution française, cet énorme mouvement de mise en cause de la société aristocratique, il faut quand même bien comprendre que la France est toute seule dans sa remise en cause d'une société inégalitaire, aristocratique, basée sur l'inégalité à la naissance, qui était tellement imprégnée depuis des siècles, une société féodale dans laquelle l'aristocratie domine, hein, et a tous les pouvoirs en quelque sorte. Et la Révolution française est une authentique révolution dans la pensée. Alors, elle a été précédée, évidemment, d'un siècle des Lumières, de penseurs, de philosophes, etc., qui ont imprégné l'esprit des gens qui réfléchissaient, etc. Mais enfin, bon, il y a eu une révolution, et elle a été violente, cette révolution. Pourquoi ? Parce que les gens qui sont bénéficiaires, hein, les classes aisées, les classes privilégiées, les classes qui sont au pouvoir, elles ne laissent jamais le pouvoir sans se battre. Il est bien évident que si tu proposes aux gens quelque chose, il faut bien leur dire, nous avons un ennemi de classe qui est très puissant, qui a les leviers, et qui a les leviers aussi de la pensée, qui a tous les moyens d'information. Je crois qu'en ce moment, TF1 est en train d'avaler la 6e chaîne, etc. Il y a une concentration au niveau des médias, ces gens-là archi-dominent les médias et dominent la pensée aussi. Et donc, ça va être un combat, il faut que ça soit un combat forcément radical, demandant de transformer les choses à la racine des choses. Alors, il ne faut pas se payer de mots. Je pense que dans ce truc-là, les gens ont tellement peur des mots. Hein. Souviens-toi, les mots capitalisme, communisme, marxisme, classe sociale ont été complètement évités. Parce que c'était tellement caca, ces références-là, que, hein, Horesco référence. Donc, on les a complètement éliminés. Donc, je ne pense pas qu'il faille s'amuser à faire peur aux gens. En disant, voilà, vous allez voir, on va leur couper la tête, les têtes vont tomber dans le panier de sueur. Je pense qu'il faut éviter de faire peur aux gens. Bien sûr qu'on a envie de les fusiller, bien sûr. On ne le fera pas, hein, on ne le fera pas, mais il ne faudra pas qu'ils viennent nous faire chier, quoi. Donc, deux choses, hein. Un programme, une véritable espérance sociale, hein, et un mouvement de masse. Sans mouvement de masse. Ensuite, après, le problème de la violence ou le problème de l'empoignade, c'est secondaire. Il faut avoir les masses. Les masses sont beaucoup plus nombreuses. L'oligarchie, ils ne sont pas nombreux. On est beaucoup plus forts qu'eux, nous les salariés. C'est comme ça qu'il faut parler aux gens aussi, les salariés. Il ne faut pas dire le peuple, il faut éviter ces trucs-là. On peut dire la nation. Ça, c'est un concept politique. Il faut éviter de parler de peuple, il faut parler de salariés. Nous, les salariés, n'avons pas les mêmes intérêts que les banquiers et les oligarques. Nos intérêts sont fondamentalement antagoniques. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est à ces gens-là qu'il faut imposer une autre politique, une autre société, une autre constitution pour commencer. Le chantier est énorme. Hein. Il faut effectivement commencer par d'autres institutions. C'est-à-dire qu'il faut que le pouvoir de la nation, des citoyens, s'appuie sur des institutions qui lui permettent réellement de gouverner et non pas d'être à la merci des mercantiles, des banquiers, etc.
Et voilà les amis, il n'y a plus qu'à s'y mettre. C'est sur ces mots que s'achève cette spéciale « Pourquoi la gauche perd ?», l'une de nos émissions les plus déprimantes de 2022. On vous conseille donc d'en écouter d'autres sur notre site, polemixetlavoixoff.com, où vous pouvez aussi vous abonner au podcast. Avant qu'on ne se retrouve très vite sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat. Continuons le début, bien entendu. Salut.
Terminé.
Les petits cons alternatifs doivent s'arrêter maintenant.